Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
La famille, ce havre de sécurité en même temps le lieu de la violence extrême, dit Boris Cyrulnik, dont la famille a été déportée et tuée en camp de concentration, et qui fait ici appel à son expérience professionnelle. Or, cette violence peut se révéler à son paroxysme quand survient la mort des parents. C'est alors l'heure des règlements de compte, des jalousies, des rivalités souvent tues et qui s'expriment soudain. C'est le moment où on rappelle à la fratrie ce que l'on n'a pas reçu des parents ou que l'on pense ne pas avoir reçu. C'est avec un sens de l'observation aiguë et perspicace que ce roman nous propose d'entrer dans la psyché d'un homme à un moment clé et douloureux de sa vie, moment où tout doit être mis à plat. Les inévitables fêlures vont-elles anéantir ou au contraire aider à grandir? Ce roman s'intitule « Ces fêlures, par où passe la lumière ?» Il est édité par Neobook Édition et j'ai le plaisir de recevoir son auteur Olivier Herson. Olivier Herson, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est à la fois une histoire individuelle et une histoire de famille. Alors, comme toutes les histoires individuelles, famille, il y a des drames, il y a des chagrins, mais aussi une histoire d'apaisement. C'est ce livre, c'est un livre, je dirais, Olivier Herson, dans lequel beaucoup de lecteurs se reconnaîtront ou reconnaîtront des situations semblables autour d'eux.
Oui, sans doute. Et j'avais souhaité vraiment faire un livre sur la résilience. C'est-à-dire, je tenais à ce que ça se termine bien. Ça commence très mal, vous l'avez vu vous-même, puisqu'il parle, mon héros passe par des tas d'épreuves personnelles.
On va parler de ses épreuves, oui.
Voilà. Et ça se termine bien. Enfin, à mes yeux, ça se termine bien, en tout cas.
Voilà. Et alors, ce que vous faites dans votre roman, c'est que vous décrivez à la fois les événements qui marquent la vie de Gilles, votre personnage central, et en même temps, ses pensées, ses émotions, ses réactions, ses erreurs aussi. Donc, nous sommes vraiment tout, très centrés autour de lui. Et on se dit que Gilles est un personnage effectivement intéressant. Et là aussi, on en connaît des Gilles. Gilles doutait, le patronyme est évocateur.
Oui, c'est pas un hasard, effectivement. Effectivement, j'ai tenu à ce que le nom mette le lecteur sur la piste de ses hésitations, parce que c'est un personnage qui est dans le doute en permanence, en fait.
Voilà.
Je pense qu'il pense que la vérité, c'est le doute, d'une certaine façon, ce que je pense aussi, on va dire.
Oui.
Et pas les certitudes.
Alors, avant peut-être de parler de lui, on peut dire que sa famille, dans le fond, avec le recul que nous avons en tant que lecteur, dans le fond, elle est à peu près normale.
Oui, à peu près. Simplement, elle est globalement normale avec quand même des aspects dysfonctionnels.
Oui, mais il n'y a pas de famille idéale, par
exemple. Non, ça c'est probable, c'est certain même.
Alors, Gilles a deux frères et il en est le cadet.
Oui, tout à fait.
Le cadet. Bon, alors, je veux dire qu'il est au mi-temps de sa vie et vous venez de dire qu'il est psychanalyste.
Oui.
Bon, je ne sais pas comment sont tous les psychanalystes, mais là, on le sent quand même, effectivement, hypersensible.
Oui, je pense que c'est quelqu'un d'hypersensible, et c'est quelqu'un qui rencontre une épreuve qui est celle du cancer, et qui, effectivement, vous avez employé l'expression « mettre à plat », c'est exactement ça. Dès lors où la mort rôde, malgré tout, on met tout à plat, et on fait le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, et c'est également, une espèce d'initiation. Voilà, c'est un voyage initiatique d'une certaine façon.
Quand vous dites on voit ce qui est essentiel et ce qui n'est pas, parfois en l'écoutant, en lisant sa description, ce qu'il fait, ce qu'il pense, on se dit effectivement, pour lui tout paraît souffrance à un moment donné. Avant, on imagine comment il était avant les drames qui vont se succéder, parce qu'il va connaître des drames.
C'est un hypersensible et un anxieux, et à partir paradoxalement, le fait d'aller au front, si je puis dire, des difficultés, va le faire évoluer. Et il est certain que le Gilles de la fin n'a rien à voir avec le Gilles du début. Et la rencontre qu'il va faire également avec une femme qui le tracte vers la lumière, vraiment, vers l'espoir et vers la vie, va le sauver. Enfin.
Alors, il analyse bien les choses, et ça c'est très intéressant, mais on sent qu'il est dans une grande période de faiblesse. Alors, ce que j'ai noté, à un moment donné, Félicia, relativement loin dans votre roman, dit « Vous êtes un gosse égoïste irresponsable ».
Oui.
Et Elle est en colère,
oui.
Parce qu'elle a les pieds sur terre, Félicia.
Oui, tout à fait. Elle est à la fois, je dirais, la tête dans le ciel et les pieds sur terre, voilà.
Alors, égoïste et responsable. Effectivement, on le voyait pas comme ça, mais elle le dit. Et on se dit, mais dans le fond, c'est le petit dernier. Et peut-être qu'en effet, les petits derniers sont un peu plus égoïstes, un peu plus irresponsables
possible.
Que les autres.
C'est possible.
Pendant un temps. Bon, je ne veux pas savoir quelle est votre place dans la fratrie.
Je suis le petit dernier.
Mais après, justement, on évolue. Et mais peut-être qu'en effet, le regard des parents n'est, certainement, le regard des parents n'est pas le même que celui qu'ils portent sur leur aîné. Je ne dis pas qu'il soit meilleur ou pire, mais il est différent.
Ah, c'est probable, oui. C'est vrai. C'est-à-dire que il me semble me souvenir que le moment où elle dit ça, c'est effectivement, il a eu une réaction parfaitement
désappropriée.
Inadéquate.
Oui.
Inadéquate. Il a pas su réagir et sa fille l'a appelé. Il a vraiment, et après il s'en veut bien sûr, mais il a vraiment réagi bêtement. Et je crois que c'est ça qu'elle lui reproche avec autant de force.
Oui. On reviendra.
À ce moment-là, on a envie de le battre. On a envie de lui ficher des baffes à Gilles.
Oui, mais peut-être aussi, on comprend pourquoi il est. Sa femme est partie. Parce que, voilà, son premier traumatisme, il va faire l'expérience de la solitude.
Oui, tout à fait. Et premier traumatisme, sa femme le quitte.
Oui, bon.
Et d'une manière...
Pas chouette, hein, du tout.
Mais bon. C'est surtout d'une manière de quelqu'un qui est en recherche, je pense. Je veux dire, c'est le contraire
mais c'est
de...
une fuite, non ?
C'est une fuite, mais bon, elle a fait le constat que leur relation était arrivée en bout de course et que leur amour était plus à la hauteur de ce qu'elle attendait ou ce qu'elle avait connu. Donc c'est ça le vrai élément déclencheur. Donc elle part avec leur fille.
Mais
elle
Olivier laisse... excusez-moi, je reviens là-dessus. Je trouve quand même qu'elle part d'une manière très brutale, sans explication,
oui.
Avec sa petite fille.
Oui.
Je trouve que c'est rude. Très rude.
Je pense que ça correspond chez elle à un moment, à une sorte de pic, parce qu'après elle revient
oui.
et ce qu'elle souhaite de tout cœur et par rapport à sa fille, c'est une normalisation des rapports. Elle le souhaite et lui aussi, et finalement, ils vont trouver effectivement, à la fin, ça se termine dans une espèce de ben, je ne veux pas dévoiler
non,
la fin.
Non, surtout pas. Mais alors justement, le lecteur dont je suis, s'interroge parce que pourquoi est-elle partie comme ça ? Comment était-il en fait ? À votre avis, comment était-il ?
Gilles, avec
oui.
elle,
oui.
Je pense que c'était, ben, il était avec elle comme il était dans la vie en général, c'est-à-dire assez dans le doute, les incertitudes, et qu'à la longue... C'est pour une femme, c'est fatigant, enfin, d'avoir quelqu'un, d'avoir un compagnon qui lui-même est un peu flottant.
Oui.
Voilà, on parlait
oui.
tout à l'heure hors micro d'Antoine Douanel et de Truffaut. C'est un peu ça, oui.
Un grand ado.
Voilà, un peu.
On en reparlera quand on parlera de la mère, parce qu'il y a peut-être là, j'ai du mal à dire chercher la mère, parce qu'il faudrait qu'on parle du père parfois hein, aussi.
Oui, mais qui est assez absent en fait.
Oui.
Il est
oui,
là
oui.
comme une figure et tutélaire, oui. qui effectivement donne des caps. Il est essentiellement conformiste, mais au fond c'est elle qui œuvre, c'est
oui.
elle l'important.
Oui. Et lui effectivement paraît fragile. Il dit d'ailleurs que dans leur vie commune, elle était un point fixe, une zone de stabilité. Je lis là.
Oui.
Une zone de stabilité. Mais elle, je me dis aussi, une froideur résonante.
Je la vois moins froide qu'en fait, elle, c'est sa façon d'aimer qui est particulière. C'est-à-dire que, au fond, elle aurait voulu avoir trois enfants uniques, donc elle a eu trois enfants uniques, et même quatre si on pense à la...
Ah, vous parlez de la mère, là ?
Oui, de la mère,
ah
pardon.
Oui, alors moi j'en étais à l'épouse, hein, à Hélène.
Ah, d'accord, pardon.
Toujours sous contrôle, une froideur résonante.
Oui, alors oui, elle, c'est tout à fait ça. C'est quelqu'un qui aime contrôler, comme beaucoup
voilà.
de gens aujourd'hui.
Oui, oui, oui.
Elle n'aime pas tellement laisser de place au hasard, en tout cas le moins possible.
Oui.
Et donc, effectivement, sa vie est dictée par son filofax, avec ses dates de rendez-vous, ses heures. Et il ne faut pas que le rendez-vous dure trop longtemps, etc. Tout est effectivement balisé. Ce qui la rassure, j'imagine, parce que c'est quelqu'un de très angoissé, en fait.
Oui, et finalement, on se dit que dans le fond, ce genre de mari qu'elle pouvait diriger, d'une certaine manière, aurait dû lui convenir.
Probablement, oui.
Alors donc, en creux, on devine chez lui quelqu'un d'assez dépendant, en définitive, et d'inhibé. Non, c'est pas
je
ça.
Pense que non, pas
je
tout
sens
à fait.
Que vous allez défendre votre personnage.
Oui, je vais le défendre parce qu'en fait, il est effectivement dépendant d'elle, c'est vrai. C'est pour ça que le monde s'écroule quand elle part.
Oui.
Et que à terme, enfin, il idéalise un petit peu la relation qu'il a eue avec sa femme quand il est seul, je pense. Mais je dirais pas ça. Non, il est.
Il dit sans elle. Vous dites, il n'était qu'un locataire, un hôte de passage.
Oui.
Un hôte de passage.
Oui. C'était dans son appartement, en
oui,
fait.
Oui, oui.
Son vrai domaine, c'est son bureau, alors qu'il a, décoré selon ses voeux, ou l'a tout choisi.
Oui, mais alors etc. C'est un mari absent d'une certaine manière.
D'une certaine manière, oui.
Oui.
Mais il est absent de lui-même, en fait, je pense.
Oui, c'est ça, oui.
Et je pense qu'il a été inhibé par une éducation assez stricte, mais dont il s'est dégagé grâce à un personnage assez étonnant, pour lequel j'ai de la tendresse. J'ai de la tendresse pour 3 personnes en particulier, même 4 dans le roman. Mais j'aime mes personnages. Quand j'écris, j'aime mes personnages. Ce personnage s'appelle Squirrel, qui rencontre, qui l'initie à la sexualité et qui lui
donne la possibilité
d'être et de réagir, ouais. Et elle le remue, elle le secoue, elle lui dit non, ça peut pas se passer comme ça, il faut que tu prennes ton destin en main, etc. Donc c'est une passeuse, elle n'a pas plus d'importance que ça dans le récit, mais elle a cette importance là.
Oui. Est-ce qu'elle lui a appris à s'aimer, parce que visiblement à un moment donné il dit au fond il n'aurait pas aimé vivre avec un type comme lui.
Oui. Mais je pense que effectivement, je pense que elle commence. Enfin, c'est assez banal de dire ça, mais je pense que ce sont les femmes qui nous hommes nous font évoluer et nous apprennent cette espèce d'intelligence de la vie. Et en fait, il y a 2 femmes vraiment importantes pour lui. Peut-être c'est Squirrel et Félicia.
Hélène
est importante, mais elle a un rôle intermédiaire finalement. Voilà, oui. Je pense que Félicia a beaucoup d'importance.
Alors, vous avez une réflexion qui m'intéressait tout à l'heure sur les personnages que vous aimez. Comment vous avez construit votre ouvrage avec déjà tous les personnages au départ ?
Non, en fait, je sais que c'est assez surprenant, mais j'ai grosso modo un peu le plan dans la tête. Mais en fait, le plan, je le fais quand tout est écrit. C'est bizarre. C'est-à-dire que je me laisse mener par mes personnages. C'est-à-dire j'écris et après le fil se déroule sans que j'y puisse grand chose. Enfin, voilà, il y a quelque chose dans l'écriture, au moins l'écriture fictionnelle qui est assez étonnant, c'est qu'en fait on est mené.
Oui.
Il y a quelqu'un qui nous
tient
la main.
Donc pas de plan au préalable. Après.
À peu près,
oui, grosso modo.
Mais après je reconstruis tout. C'est pour ça que ça me prend du temps.
Oui, parce que vous avez une écriture très dense, vous allez au fond des choses,
oui.
dans l'analyse des situations, des réactions des individus.
Et tout ça, en fait, est écrit dans un premier jet, et après, je recoupe. Aujourd'hui, maintenant, je regrette de ne pas avoir assez coupé encore. Enfin, ça serait à refaire, je le réécrirai, je recouperai encore mes phrases. Mais voilà, je suis entraîné, quoi. Enfin, c'est ce que...
Alors, revenons à Gilles, qui donc a été abandonné par sa femme et sa fille. Bon, le drame aussi...
Enfin, sa fille, elle suit, elle n'abandonne pas son papa.
Oui, hein. Voilà, et sa femme est partie avec sa petite fille, donc, et donc il se retrouve avec un vide glacial,
oui.
Je cite. Et ce qui va se passer, c'est que dans le fond, moi je dirais qu'il sombre dans une forme de déprime, se désintéresse de tout, se réfugie dans le travail.
Oui, et à la fois, il se remue. Il se laisse pas aller.
Il fait du sport.
Il fait du sport jusqu'à l'épuisement.
Oui, voilà.
Et
ouais.
Il se laisse tomber sur son lit, les bras en croix, complètement laminés par l'effort qu'il a fourni quelques minutes auparavant. Il est vraiment dans... Il se bouscule et il se viole parce que c'est pas un personnage sportif.
Oui.
C'est
quelqu'un qui s'oblige.
Il s'oblige,
oui.
Voilà.
Il s'oblige.
Pour en sortir. Donc il y a déjà une volonté malgré tout.
Oui.
Donc dès là, dès ce stade-là, on voit qu'il y a une évolution, qu'il cesse de subir et qu'il prend son destin en main. Ça commence dès cette époque-là, je crois.
Mais arrive, et ça aussi c'est fréquent, après un drame, après une rupture, arrive la maladie.
Oui.
Bon, alors, un cancer avec chimiothérapie à la clé, et ce qu'annonce le médecin, le spécialiste, 50% de chances de s'en sortir.
Voilà.
C'est jouable.
Oui.
Voilà, c'est le terme.
Oui, et ça devient une espèce de leitmotiv, de mot magique pour lui. C'est une formule magique qui, chaque fois qu'il a un petit coup de blues, il se dit c'est jouable, il se remue.
Oui, oui, oui. Alors bon, je vais pas dire il va se battre, parce que moi, le terme se battre dans la maladie, j'ai jamais trop aimé, parce qu'il y a des gens qui sont des volontaires, etc., et qui peuvent pas se battre, et qui peuvent pas lutter contre la maladie, parce que la maladie est plus forte. Souvent, vous savez, il me semble qu'on pourrait penser que les gens qui ne résistent pas à la maladie
sont des faibles.
Sont des faibles,
oui,
c'est
non,
faux.
C'est pas ça.
Ouais.
Non, non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, un aspect volontariste chez lui par rapport à la maladie et qui est, je dirais, augmenté par la présence merveilleuse de Félicia, qui est un personnage que j'adore.
Au départ, mais oui, elle est très attachante. Au départ, vraiment, elle est vraiment tellement discrète. Elle est là par moment, en laissant des choses, un replat, etc. D'une discrétion à toute épreuve. Et puis, on le voit. Alors là, vous faites une description des hôpitaux, du médecin, des malades.
Oui.
J'ai beaucoup aimé celle des malades, le langage silencieux entre eux.
Ah,
une fraternité douce et latente.
Oui.
Ouais.
Eh oui, c'est ça. Et le fait de détecter chez l'autre ce dont on est porteur, cette espèce de paille dans le métal.
Il y a une fraternité.
Oui, ah oui, oui. C'est un peu un radeau de la Méduse. Chacun s'entraide.
Oui, et chacun se comprend.
Oui, chacun se comprend, puisqu'ils partagent les mêmes sentiments, en fait.
Oui.
On est tous.
Et vous dites, et ça m'a frappé, parce que je connais quelqu'un qui m'a dit ça, l'éternelle question, pourquoi moi ?
Oui. Et oui, et quelle que soit l'épreuve, que ce soit les camps, je pensais à Primo Levi, voilà. Je pensais à Primo Levi qui toute sa vie, d'ailleurs, il a mis fin à ses jours, était poursuivi. Pourquoi moi je m'en suis sorti, pourquoi pas les autres, voilà. Et ça, c'est une éternelle question, éternellement
alors là,
sans
le
réponse.
Pourquoi moi, c'est pour s'en sortir ou pourquoi moi suis-je malade ?
Non, là, c'est pourquoi moi, pourquoi c'est tombé sur moi,
voilà.
Pourquoi ai-je eu cette malchance épouvantable que, en plus, parce qu'il doit y avoir aussi ça dans sa tête, c'est que non seulement sa femme le quitte, mais en plus il tombe malade. Donc c'est beaucoup pour la même, ça fait beaucoup pour la même personne.
Et ce qu'il y a d'étonnant, je me disais ça en lisant votre ouvrage, c'est que dans le fond, ce qui est vrai, c'est que finalement, toute sa science, et certainement c'est un psychanalyste de talent, finalement, pour lui, ne sert pas à grand chose.
Non, ça marche pas. Ça marche pour les autres, ça marche pas pour lui. D'ailleurs, il le dit à son frère.
Oui.
Je suis compétent pour les autres, mais pas pour moi.
Oui. Ah oui. De même que vous mettez l'accent sur l'importance du personnel médical, leur présence rassurante, la présence féminine, là aussi.
Oui, oui, oui.
Oui.
Ça m'a toujours frappé. J'ai accompagné des malades, etc. Et j'ai toujours été frappé par cette espèce de dévouement, et c'est quelque chose de très touchant, j'ai vu.
Oui. Des personnes toujours présentes et qui font leur métier, mais le font avec quelque chose de plus.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Un supplément d'âme, c'est
absolument
vrai.
Absolument. Alors, vous parlez de Félicia, mais quand même, au départ, l'absence de quelqu'un à ses côtés, l'absence d'Hélène, dans le fond, c'est très douloureux.
Très, ouais, très. C'est une douleur qui est presque à le rendre fou, en fait. Hein. Et d'une certaine façon, la maladie le distrait de ce chagrin-là.
Oui. On a ce sentiment. Et Félicia, donc, discrète, douce, efficace, et dont il dit sa vie donne du prix à la sienne.
Oui, il s'intéresse à elle tout de suite. Et en fait, alors, en partie, je pense pas qu'il tombe amoureux d'elle tout de suite, mais le fait d'être seul et d'être seul sans femme,
oui.
le fait rêver sur Félicia, et il l'imagine dans les situations du quotidien, etc. Et c'est, il reconstitue, il lui pose d'ailleurs les questions, comme des choses aussi vraiment... ils ont des dialogues du quotidien.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais quelque chose, justement, quelque chose de terre à terre qui fait du bien également.
Oui, oui, oui. Tout à fait.
Ouais. Et ça, alors, c'est amusant de voir quand même que cet homme psychanalyste, un intellectuel, donc, oui. a besoin tout d'un coup de se rattacher à des choses simples.
Et à une femme qui est simple.
Ouais.
Et qui est simple et qui a un bon sens incroyable. Et elle aussi est assez étonnante, puisqu'en fait, elle a perdu un mari dans un accident absurde qu'elle adorait. Et en fait, elle communique avec son mari.
Oui.
Par-delà la mort. Et là, c'est vrai que pour le coup, je me suis inspiré d'une expérience qui est arrivée à quelqu'un qui s'appelle Philippe Ragneau et qui explique, qui raconte, voilà. Et je me suis inspiré de ça.
Oui.
Je ne sais pas si Philippe Ragneau l'a imaginé ou pas, mais c'est vrai que ça m'a donné l'idée de... Alors, et puis je trouvais...
Elle a une foi dans l'au-delà, elle ne parle pas de Dieu, mais elle a une foi... Elle sait qu'elle reverra son mari, qu'elle retrouvera son mari.
Oui,
c'est une force pour elle, mais pour également Gilles.
Oui, bien sûr, ça lui, elle irradie, donc elle le remplit de chaleur, elle lui donne tout ce qu'elle a en fait, et c'est des choses simples. Et elle est persuadée effectivement que, qu'après il y a quelque chose, etc. Oui. Et donc je crois que c'est Julien Green qui appelait la mort ce grand rassemblement dans un de ses derniers.
Gilles, comme vous l'avez dit, il a décidé de se battre. Et je lis, Gilles devait se battre pour l'honneur de sa fille, pour ne pas donner à Camille de raison d'avoir honte de lui, pour sa vie aussi, reprendre ses activités, tout commencer par là, retravailler rapidement, avec ferveur, tous les matins, et retrouver Serge, son associé, qui affichait une bonhomie factice. Jour après jour, par touches successives, il interrogeait sans avoir l'air, tu n'es pas trop fatigué, etc. Bon, donc il s'accroche quand même.
Oui.
Et il va au-delà donc de cette maladie qui évolue plutôt positivement, mais enfin, on ne va pas trop parler de cela. En tout cas, cette maladie, parfois on dit qu'elle tombe à pic.
Mais c'est le cas, là, au fond. Au fond, il y a du bonheur dans le malheur, ou enfin, à quelque chose malheur et bon, dit-on, mais c'est ça. Je pense qu'effectivement, elle le fait réagir, elle le fait progresser, et elle le fait progresser spirituellement aussi, je pense.
Voilà, et elle donne de l'importance à des choses, elle lui permet de voir ce qui est important,
voilà.
Ce que vous avez dit tout à
l'heure.
Oui,
tout à fait.
De voir,
il fait le tri.
Oui, exactement. Bon, ce qu'il y a d'intéressant également, c'est de voir que rien n'est linéaire. Il y a des moments de colère.
Oui.
Il y a des moments où il dit, non, maintenant il faut que j'agisse.
Oui.
Mais des moments de révolte.
Oui, mais ça, ça a été analysé, je crois, par Elisabeth Kübler-Ross, où elle fait par rapport aux grands malades, elle dresse un tableau avec des étapes et qui passe par l'indignation, la colère, et après le laisser aller, etc. Mais quelque part, c'est vrai que ces étapes-là, il les vit, même si heureusement pour lui, il ne décède pas, quoi.
Bien sûr. Alors, Olivier Hersan, je vous propose une pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, je retrouve Olivier Herson pour parler de son roman « Ces fêlures par où passe la lumière », roman édité chez Neo Book Édition. Nous parlons de Gilles, cet homme psychanalyste qui vient de subir une première épreuve, le départ de sa femme qui et le départ de sa petite fille qui a suivi sa maman, qui a subi une épreuve du cancer. Cancer, une forme grave, mais avec quand même 50% de chances de s'en sortir. Et à un moment donné, vous y êtes pas trop attardé, mais ça m'a intéressé. Il décide de se mettre à l'écriture.
Oui. En fait, c'est, dit-il, pour occuper son... parce qu'en fait, être malade, c'est passer des heures sur un siège inconfortable dans des salles d'attente ou coucher, etc. Donc logiquement, c'est pour occuper son temps. Et en fait, il se découvre, effectivement, une âme d'écrivain, en fait.
Oui, ouais. Voilà. Alors, je me suis dit, dans le fond, l'écriture... C'est beaucoup de choses, hein. Vous dites pour occuper son temps, c'est aussi une thérapie.
C'est aussi ça, mais oui, c'est aussi ça. Mais je pense que ça, on y pense. Enfin, l'écrivain n'y pense pas particulièrement. Je pense que Proust disait que l'écriture c'était la vraie vie. Et je pense que pour les gens qui écrivent, oui, c'est la vraie vie.
Et quelqu'un de malade, c'est peut-être l'évasion.
Oui, tout à fait.
Aussi.
Oui, oui.
Oui. En tout cas, peut-être une nécessité pour beaucoup.
Oui, hein. Oui, oui.
Oui. Alors bon, on est face à un homme qui doit assumer l'échec de sa vie sentimentale, l'échec provisoire de son travail, puisqu'il doit s'arrêter, évidemment, il ne peut pas continuer, sa lutte contre la maladie, et évidemment, il a de grandes phases de tristesse, on l'a dit en début d'émission, c'est un homme qui est extrêmement sensible. Il dit la tristesse, un mal chronique, tel un eczéma, non, c'est pas lui qui a dit ça?
Oui, oui.
Oui. Effectivement, il oscille là encore, on parlait de colère, de volonté d'agir, mais également de tristesse. Et à ce moment-là, arrive... autre chose, et ce n'est pas anodin parce qu'il est dans le mi-temps de sa vie et les parents sont âgés et les deux parents vont mourir.
Oui, tout
voilà.
À fait.
Alors ça révèle là encore un autre chapitre important de la vie d'un homme.
En plus, ça intervient dans un moment de rémission où il reprend son travail. Donc... Donc ça le frappe d'autant
parce
plus.
Parce qu'il a l'impression de repartir en arrière. Quasiment.
En arrière, oui. Il y a une sorte de régression. Il retourne dans la mort d'une certaine façon, même si c'est pas la sienne. Et ça lui permet de... Ça va le plonger dans un autre drame intérieur. C'est vu comme ça, je m'en aperçois en vous parlant, Monique. J'ai le sentiment que c'est une histoire triste. Mais en fait, c'est pas une histoire triste. C'est ça le paradoxe. Il me semble, enfin, parce que...
Mais, je vais vous dire, c'est quand même des histoires qui arrivent à beaucoup de personnes.
Oui, oui.
C'est vrai que là, on sent quand même qu'il va évoluer, il évolue. C'est vrai que la mort des parents, nous connaissons tous cela, à un moment donné. Et là, nous allons parler d'ailleurs de la fratrie, parce qu'il y a une fratrie, ils sont trois frères, Gilles étant le plus jeune, et les autres, il y en a un de 10 ans de plus, et un autre de 20 ans de plus.
Voilà, exactement.
Voilà. Donc ça fait... Ils n'ont pas été... Et moi, en vous parlant, je me dis, mais dans le fond, ils n'ont pas été vraiment élevés ensemble.
Non, très peu. Ils ont très...
J'avais pas pensé à ça.
Gilles a très, très peu de souvenirs. Il n'en a quasiment aucun avec Benoît, mais il en a quelques-uns qui sont mauvais.
Oui.
Et quelques-uns aussi avec l'autre frère, qui lui vit en Angleterre.
Voilà. Et l'autre frère, alors Christian, donc
c'est Christian qui
vit
habite
en
Londres,
Angleterre,
qui est photographe,
dont on va parler parce que c'est un personnage finalement qui est bien dans sa peau, lui.
Oui, oui, c'est l'inverse. Enfin, d'une certaine façon, il est le seul qui soit bien dans sa peau.
Parce qu'il s'est sauvé.
Peut-être, oui, oui, sans doute, sans doute.
Voilà, alors Olivier Herson, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre ouvrage dans lequel on parle des frères de Gilles, bien sûr, oui. Mais aussi de Christian. Benoît, on pourra en parler, mais plus rapidement, je pense.
D'accord.
On vous écoute.
Christian, il lui était arrivé de l'envier. Ça n'était pas de la jalousie, non. Disons plutôt qu'il avait envié comme on envie celui qui possède des qualités inaccessibles. Très tôt, leur dissemblance, d'abord masquée par la différence d'âge, s'était étalée. Leur mère disait « Gilles, comme tu es empoté, mon petit. Prends exemple sur Christian. » Madame Doutet adorait comparer ses enfants et toujours à la défaveur de celui qui était l'objet de la comparaison. Qui infligeait alors la blessure narcissique? Elle était elle ou celui qu'elle convoquait? On ne s'y retrouvait guère, sauf que l'on était dans la situation de vouloir plaire à sa mère et de jalouser son frère, un truc imparable et qui marchait à tous les coups. Une vraie mécanique de précision de l'horlogerie suisse. On ne change pas, un peu bien sûr, mais la vraie nature des êtres n'évolue guère. Gilles avait été un petit garçon réservé, timoré même. Il était aujourd'hui un quadragénaire hésitant et timide, tandis que Christian, dès la sixième, une photo de classe l'attestait, était le coq de la classe. Aujourd'hui, c'était un adulte fonceur, pragmatique, débrouillard. Il était ce qu'il faisait à la minute où il le faisait, empiriquement, efficacement. Christian simplifiait quand Gilles compliquait tout. Le monde, selon Christian, s'imposait en évidence. Celui de Gilles s'étouffait de ses propres contradictions. Christian, et c'était sa force, était dans la vie, pleinement. Une vie qu'il brassait, bousculait et dont il épousait chaque contour. Au fond, pour Gilles, Christian n'avait d'existence qu'au travers des propos de leur mère.
Voilà donc un autre personnage qui apparaît dans votre roman, Christian. Et tout à l'heure, vous m'avez dit, Félicia, cette dame de compagnie des parents qui va s'occuper de Gilles, Félicia donc l'a tirée vers le haut, vers la vie, vers l'espoir. Mais je pense que Christian a eu son rôle. Et quand on dit qu'il y a cette rencontre des frères,
oh oui,
là,
oui.
Il y a quelque chose de vraiment de positif.
Oui, tout à fait. Là vraiment, je pense que Christian se rend compte de l'abandon relatif qu'a présenté sa fuite, entre guillemets.
Qu'il a peut-être sauvé d'une certaine
façon. Et il a le désir d'aider son frère, c'est un désir sincère.
Oui, oui. Et c'est un personnage, bon, lumineux. Évidemment qu'il a joué certainement de sa séduction, évidemment qu'il est sans doute pas parfait.
Non, c'est un personnage qui a l'air léger au départ et qui ne l'est pas, en fait.
En fait, parce qu'il
s'amuse dans la vie. Il aime s'amuser, donc il s'achète des voitures, des guitares, s'amuser.
Oui.
Mais au fond, c'est quelqu'un de profond, mais qui fuit peut-être cette profondeur dans l'étourdissement que peut donner le plaisir de posséder des objets qui vous attirent.
Oui. Et c'est là où on se rend compte, c'est pour ça que je souhaitais que vous lisiez ce passage, qui pour moi est un élément clé du rôle de la mère. Alors, vous avez dit très justement en début d'émission qu'on ne parle pas trop du père, et c'est quand même bien dommage aussi. Hein. Mais là, la mère a un rôle assez toxique, je dirais.
Oui, on parle du père dans l'obstruction de principe qui met à son choix de métier.
Oui,
voilà. C'est principalement ça, ça choque sa sensibilité. Il y a quelque chose qui lui déplaît. Voilà, c'est un peu un métier de saltimbanque pour lui. Et donc, il s'oppose à ça. Mais c'est à peu près, effectivement, c'est à peu près tout, en fait.
Et quant à la mère, elle leur apprend la soumission.
Oui.
Voilà pourquoi Christian
s'en va. Oui, c'est à la fois une femme qui aime ses enfants sincèrement et profondément, mais elle les aime mal, elle les aime un petit peu en ogresse, elle les aime pour elle.
Oui, donc elle ne colmate pas une fratrie,
non,
parce qu'elle veut des
au
relations
contraire, au
en d'individu à individu.
Voilà, en fait, elle veut avoir plusieurs fils uniques.
Oui, voilà.
Et elle y arrive très bien, et effectivement, elle disloque la famille. Alors, est-ce qu'elle le veut, est-ce qu'elle ne le veut pas?
Non, c'est inconscient, c'est inconscient,
voilà,
probablement.
Il y a un
doute
là-dessus.
Mais c'est très intéressant, parce qu'on peut l'observer, ça, fréquemment.
Oui, bien sûr. Oui. Je pense qu'elle est un petit peu abusive, enfin, voilà.
Oui, et malheureusement, ça fait des enfants aux quatre coins de la vie, je dirais, qui ne se rencontrent pas. Et là, il va se passer, effectivement...
Une rencontre avec Christian et une belle rencontre.
Oui, une belle rencontre. Bon, les parents meurent, on en parle un petit peu. Leur vieillesse, eh bien, c'est une vieillesse finalement assez banale, j'ai du mal
oui,
à dire
oui,
banale.
Oui, oui, si, mais commune, oui, ça arrive à des tas de gens.
Voilà,
mais...
avec une sorte de détachement progressif
oui,
qui peut être douloureux pour les enfants.
Tout à fait. Simplement, il y a quelque chose d'important, c'est que est suggéré le fait que le père se soit suicidé après la mort de après s'être rendu compte que son épouse était décédée. Voilà.
Oui.
Donc c'est avant tout une belle histoire d'amour entre eux, hein,
oui,
une histoire
oui,
passionnelle.
Oui. Mais bon,
mais il se donne la mort.
Il s'était déjà symboliquement éloigné de la vie
de la
leurs
vie.
Enfants.
Oui, 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 tout à fait.
Oui. Et justement, on revient, moi je voudrais pour terminer, Olivier Herson, je voudrais revenir à Félicia, parce que Félicia, c'est l'élément salvateur finalement.
Oui, 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 tout à fait. Hein?
Elle a ses valeurs.
Oui. Oui, elle a ses valeurs qui sont pas des valeurs traditionnelles, comment dire, elle est extrêmement, c'est paradoxal, elle a des amants parce que effectivement elle aime la sensualité, et à la fois elle est très attachée à son mari, et à la fois elle est dans une famille, elle est issue d'une famille paysanne extrêmement croyante et d'une foi un petit peu implacable, et elle répond toujours par des attitudes un petit peu à la Arletty, si je puis dire.
Ce qu'il y a, c'est que elle a aussi un respect et une attention aux autres.
Énorme.
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 Oui.
Ah oui. Ah oui, oui, c'est une femme qui est dans l'écoute, dans l'empathie, et qui se prend d'intérêt pour Gilles. D'abord parce qu'il est malheureux, qu'il lui arrive des tas de tuiles, etc. C'est pas, l'amour vient après, mais juste après.
Et donc, à la fin, lui, il a appris, et c'est la maladie qui lui a appris ça, la valeur et la fragilité de l'amour.
Oui.
Et finalement, il va être très différent de ce qu'il était avec Hélène.
Bien sûr. Ah oui, complètement. Il va être avec cette nouvelle femme. Alors pour le moment, ils en sont au balbutiement, et ils sont amants, mais ils en sont au balbutiement de leur relation. Il va être avec cette femme totalement différent de ce qu'il a été avant. Voilà.
Oui.
Mais bon, voilà, c'est un peu le propre de... Je pense que chaque amour fait grandir et fait progresser.
Alors finalement, on ne sait pas s'il va guérir. On pense que oui.
Oui, on pense que oui.
On pense que oui. Je me dis qu'il y a des maladies qui finalement sont elles aussi salvatrices.
Oui, 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 bien sûr. Toute maladie nous renvoie à nous-mêmes et au plus profond de nous-mêmes. Donc, effectivement, et même si ça se termine mal, entre guillemets, eh bien, ça nous aura fait progresser d'un point de vue personnel, spirituel. Et...
Ça nous aura donné aussi le poids,
oui.
L'importance et le poids de la vie.
Oui, oui, tout à fait.
Et peut-être tourner ses yeux vers autre chose que les biens matériels.
Oui,
les
oui, tout à fait. Et c'est,
voilà.
C'est son cas. Hein.
C'est son cas.
Voilà.
C'est son cas. En tout cas, Gilles est un personnage très attachant. Évidemment, on n'a pas eu le temps de parler de tout ce qui le forme, tout ce qui se passe dans sa tête, parce que on sent, il analyse les situations, il se pose des questions, il se fustige même.
Oui, oui, oui.
Mais c'est un homme qui est attachant.
Mm.
Voilà. Autre chose à ajouter, je crois qu'on
en...
Voilà, alors on va dire à nos auditeurs qu'il s'agit de « Ces fêlures par où passe la lumière » d'Olivier Herson, paru aux éditions Néobook. Alors on peut dire que les Toulousains peuvent trouver ce livre à
Ombre Blanche pour le moment, en tout cas.
Et puis sinon sur Internet.
Voilà, exactement, en allant Néobook. Sur Néobook. Voilà,
voilà,
tout à fait.
Un grand merci.
Avec plaisir. Merci. Thank you.